La dernière chose que je vous ai mis sur l'écran, c'est montrer de l'amour envers et contre tout, a plus d'une fois brisé les cœurs les plus endurcis. Je voudrais quand même vous raconter encore une histoire d'un frère de notre assemblée. Son fils, 30 ans, s'est trouvé à la sortie du métro à Paris, au milieu d'une rixe, et il a été poignardé. Eh bien, notre frère a voulu savoir qui était ce meurtrier, aller le trouver en prison et lui dire « Jésus m'a pardonné de mes péchés. Moi aussi, dans un sens, j'étais meurtrier. J'ai brisé une famille. Eh bien, parce que Jésus m'a pardonné, je vous pardonne. » Et il a voulu donner ce témoignage le jour de son procès. « Je suis chrétien. Jésus-Christ m'a pardonné. Il est mort pour mes fautes. Et je pardonne l'assassin de mon fils. » Voilà ce que peut faire Dieu dans la vie de quelqu'un qui se confie en lui. Le troisième, c'est la critique. La critique. Et alors, nous avons un texte dans Matthieu, chapitre 7, et au verset 5. Mais nous lisons à partir du verset 1er. « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés, car du jugement dont vous jugez, vous serez jugés, et de la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré. » Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne t'aperçois-tu pas de la poutre dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, permets-moi, je vais ôter la paille de ton œil et voici la poutre est dans ton œil. Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Ah, la critique! Que de ravages, que de catastrophes. Cette critique qui va avec le jugement, la supériorité, la médisance. Celui qui critique, c'est celui qui se met au-dessus, qui s'exalte pour davantage abaisser l'autre. Ça n'existe pas parmi les frères et sœurs, n'est-ce pas ? Le problème de la critique, c'est que c'est en général le résultat d'une interprétation de la pensée de l'autre. Vous voyez, par exemple, vous avez un frère ou une sœur qui est toujours prêt à rendre service, toujours là auprès de quelqu'un, de dire « je suis là près de toi ». Vous pouvez dire « regarde ce frère, regarde cette sœur, elle veut toujours se mettre en avant ». Eh bien non, dans son cœur, elle est pleine d'amour pour tous, pour tous les frères. Vous voyez ce que c'est la critique ? C'est quelque chose de terrible. C'est l'interprétation de ces... Mais c'est qui peut faire ça? Pour qui se prend-on lorsqu'on critique? Ben pour Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut lire dans les intentions du cœur des hommes. Regardez ce que dit Paul. Hein, c'est « Ne jugez rien avant le temps jusqu'à ce que le Seigneur vienne et aussi il mettra en lumière les choses cachées des ténèbres et qui manifestera les conseils des cœurs. » Alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu. Alors on dira, oui, le Seigneur, il va révéler les mauvaises choses. Non, ben des bonnes choses, justement. Ben souvent, nous avons vu mal, alors que c'était bien. Moi, je suis surpris quand je lis « Hypocrite, ôte premièrement de ton œil la poutre ». Mais je me dis, comment est-ce qu'on peut voir clair, pas être gêné, avec une poutre dans son œil? L'œil... Si vous regardez quelques chapitres précédents dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, c'est l'œil, c'est la lumière du corps. C'est quelque chose qui permet l'éclairage, qui correspond au cœur, si on lit bien le texte. C'est mon cœur. S'il y a quelques péchés dans ma vie non jugés, eh bien, mon discernement, ma vision est déformée, vraiment déformée. Alors déjà, cette pensée de ne pas accepter dans ma vie un seul péché dont je suis conscient, c'est essentiel. Alors, comment faire, à votre avis, pour voir alors qu'on a une poutre dans l'œil? Eh bien, c'est sans doute parce qu'on s'est habitué à voir moins bien. Donc, c'est déjà une habitude. Et attention, prenons garde à une chose. c'est que dans la vie, un péché ponctuel, c'est un accident. Et ça, vous savez, quand vous péchez pour la première fois dans un domaine, tout d'un coup, vous êtes repris et vous confessez, Seigneur. Et puis, il peut y avoir deux, trois, un certain nombre de fois, et ça devient une habitude. Et puis, si c'est très souvent, c'est la caractéristique de la personne. Quelqu'un qui boit du vin, il a bu. Mais quelqu'un qui boit tout le temps ou très souvent, c'est un alcoolique. Quelqu'un qui dit un mensonge, eh bien, il a menti. Et c'est un menteur quand c'est son habitude. Ou c'est un calomniateur. Voilà. Et ça, c'est... On s'habitue et on ne se rend plus compte. Par contre, on continue à voir quand mon frère ou ma sœur a un défaut dans sa manière de vivre, ou ce que je pense être un défaut. Alors, voyez, la chose importante, c'est donc d'être sans complaisance avec soi-même, avant tout, et clairvoyant sur ses propres faiblesses, en s'examinant soi-même dans la présence de Dieu. Chercher la présence de Dieu. Et pourquoi faire avoir un œil bien clair? Parce que nous avons un rôle vis-à-vis de notre frère. C'est d'ôter le brin de paille qu'il y a dans son œil. Ça, c'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel, cela? Je voudrais vous lire un verset dans le livre de Job qui va vous montrer en quoi c'est essentiel. Mon frère m'intéresse. C'est important pour moi. Et dans le livre de Job, on lit au chapitre 6, un verset que vous avez peut-être remarqué, et au verset 14, nous lisons « À celui qui est défaillant, qui a un brin de paille dans son œil, est due la miséricorde de la part de son ami. Sinon, il abandonnera la crainte du Tout-Puissant. » Mon frère est en difficulté. Je dois, c'est pas simplement une possibilité, mais mon devoir est d'aller vers lui pour l'aider. Est-ce que vous avez eu quelquefois une saleté dans l'œil, une petite poussière dans l'œil? Vous avez remarqué quelle délicatesse il faut avoir pour enlever cela, sinon blesse l'œil. Eh bien, quelle délicatesse avoir vis-à-vis de mon frère, de ma sœur. Et vous lisez avec moi ce verset qui est là, frère, quand même un homme s'est laissé surprendre un brin de paille par quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, tout doucement. Prenez garde à toi-même, de peur que toi aussi tu sois tenté. Attention, je peux aussi la même chose. Voilà, si nous ne sommes pas dans le sentiment de la grâce de Dieu pour chaque moment de ma vie, alors je ne peux pas être en aide. Et pourtant, est due la miséricorde de mon frère qui est défaillant. Alors, voilà, que le Seigneur nous aide vraiment à avoir cette approche. Mais nous pouvons la voir, Jésus nous dit, que si, premièrement, nous avons enlevé la poutre, mais ça avait commencé par un mot, hypocrite. L'hypocrisie, c'est soit s'attribuer des vertus ou s'attribuer des mérites que nous n'avons pas. Mais ça veut peut-être aussi dire que nous avons une culpabilité que nous voulons cacher. Et alors l'hypocrite, eh bien, il feint de ne pas avoir de problème, d'être bien. Et ainsi, il peut aider ou s'occuper des autres. Eh bien, c'est un hypocrite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est responsable. Et nous sommes responsables de notre état spirituel et nous devons être conscients de la poutre que nous avons dans notre œil. Voilà, que le Seigneur nous aide vraiment pour cesser cette critique. La chose suivante que nous dit Jésus, il nous dit dans Matthieu, « Si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. Et s'il se repent, tu as gagné ton frère. » Alors ça, c'est formidable, pouvoir gagner son frère. Mais si seulement nous ne pouvions ne pas avoir de péché entre nous qui entrave notre relation. Mais le problème du conflit, c'est que c'est normal. Les conflits, c'est normaux. Et pourquoi c'est normaux? Pourquoi les conflits sont inévitables? Eh bien, parce que nous sommes différents. Dieu n'a pas fait de nous des clones. Il nous a fait entièrement différents. Et alors, nous avons des tempéraments différents, nous avons des arrière-plans différents, des éducations différentes, nous sommes complètement différents. Nous avons aussi des convictions différentes, même pour un même but, nous avons une manière différente d'y arriver. Et voilà, nous avons souvent des attentes différentes. Mais je voudrais justement vous lire à propos d'un conflit, celui de Paul et de Barnabas, dans le livre des Actes. Et pour moi, il est particulièrement instructif. Parce que ce que nous disons là, ça peut aussi fonctionner dans les relations de couple, dans les familles. Et nous lisons dans Actes chapitre 15 et au verset 36, quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons maintenant visiter les frères dans chacune des villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils font. » Voilà, donc ils ont un but, mais vraiment un bon but. Fondamentalement, c'est vraiment un merveilleux projet. Barnabas se proposait de prendre aussi avec eux Jean appelé Marc, mais Paul jugeait bon de ne pas prendre avec eux quelqu'un qui les avait abandonnés dès la Pamphylie et n'était pas allé à l'œuvre avec eux. Et il eut donc entre eux de l'irritation, ça veut dire une vive discussion, même le mot, c'est un paroxysme de discussion, au point qu'ils se séparèrent l'un de l'autre et que Barnabas, prenant Marc, fit voile pour Chypre, mais Paul, lui, choisit Silas et partit après avoir été recommandé à la grâce du Seigneur par les frères. Et il parcourait la Syrie, la Cilicie, fortifiant les assemblées. Voilà donc deux personnes qui ont un bon projet et voilà, ils ont un conflit. Alors, l'important, c'est que ce conflit ne se termine pas par quelque chose de destructeur, mais que ce conflit amène quelque chose qui construise. Et vous voyez, le problème, c'est que quand il y a un péché qui fait qu'il y a une rupture, alors ça, c'est que le conflit a été mal géré. Il y a eu un problème qui s'est passé. Et ça peut amener des traces pour longtemps. Mais j'ai marqué ici que les conflits, ce n'est pas une catastrophe. Parce que si là, il y a un réel désaccord, eh bien, nous apprenons que les deux serviteurs de Dieu, eh bien, leur service n'est pas fini. La catastrophe, c'était que le conflit aboutisse à l'anéantissement du service de ces deux serviteurs. Eh bien, non, justement, ça n'a pas été le cas. Les deux ont pu redémarrer. Et ce qui est extraordinaire, c'est si d'un côté, on a Paul, va pouvoir continuer avec un autre camarade son ministère public envers les non-juifs et avoir tout ce que nous avons dans la parole de Dieu. De son côté, Barnabas est parti avec son neveu Marc et a pu préparer Marc pour devenir celui qui a été choisi pour écrire cet évangile qui nous apprend du Seigneur, ce côté le Seigneur comme le serviteur parfait. C'était celui qui était le mieux qualifié pour cela, parce qu'il a appris en servant, peut-être par des échecs, mais il a appris vraiment ce que c'était qu'un service, qui était au service du Maître. Et il a écrit ce merveilleux évangile. Alors, voilà, ce n'est pas une catastrophe, mais troisièmement, un conflit bien géré. Le seul qui est vainqueur, c'est Dieu. Et vous êtes bien d'accord avec moi que souvent quand il y a un conflit, on est là à chercher, compter les points, celui qui a raison, celui qui a tort. Ils ont tous les deux raison, ceux dont on vient de parler, sur le fond, ils ont tous les deux tort, sur la forme. Mais qui a raison? Dieu a eu raison des deux, gloire à Dieu. Les deux serviteurs ont pu apprendre avec cela et devenir ce qu'ils sont devenus. Et à Dieu la victoire. Nous ne sommes pas là pour chercher, nous, la victoire, mais la paix. Mais que Dieu soit vraiment victoire et gloire. Et c'est ce que nous lisons. Quel est le résultat? Paul et Barnabas se retrouvent pour le travail. 1 Corinthiens 9. Et ils parlent comme des frères qui travaillent ensemble. Le pardon a eu lieu. Marc est au service de Paul jusqu'à la fin de sa vie. Ça veut dire qu'il a pardonné à celui qui a dû lui dire « Moi, je ne veux pas de ce serviteur qui nous a laissé tomber ». Mais c'était quand même humiliant pour ce jeune serviteur. Il a pardonné. Et Paul a besoin de ce serviteur-là à la fin de sa vie. C'est le pardon total. Il y a eu cet esprit de réconciliation. Et nous avons ici appris du Seigneur, si ton frère a péché contre toi, va. Nous n'avons jamais à attendre réparation. S'il a péché contre moi, va. Si tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, va aussi, on trouve. Toujours, qu'on soit l'offenseur ou l'offensé, va. Nous n'avons pas le droit d'attendre. Voilà, c'est ce que Jésus nous dit maintenant pour que la paix revienne et pour que nous puissions à nouveau être consacrés dans l'œuvre du Seigneur. Et ça, c'est important dans notre vie de couple aussi. Beaucoup de vies de couple sont bloquées parce qu'il y a des luttes, conflits, luttes ensemble, des luttes qui nous brisent notre élan, qui fait qu'il n'y a plus d'énergie. Alors, le résultat, c'est catastrophe. Eh bien, que le Seigneur nous aide aussi à réaliser cela. Va. Nous sommes responsables de gérer, de pouvoir prendre l'initiative pour la guérison d'une difficulté, d'un conflit qui a dégénéré. Et peut-être que, vous voyez, quelquefois, on voit un frère ou une sœur qui sont plein d'allant pour le Seigneur, et puis, quelques temps après, on voit, voilà, ça a l'air d'être un peu à plat, et voilà. Que prions les uns vraiment pour les autres, et n'oublions pas que le vice, il y en a beaucoup. C'est pas comme la faim. Quand on a bien mangé, on n'a plus faim. Beaucoup de choses sont des addictions. Et ça veut dire quoi? Plus on y goûte, plus on a encore envie. Et ça, c'est une catastrophe. Demandons vraiment au Seigneur de nous aider à fuir ce qui nous poursuit et de poursuivre ce qui nous fuit. Le dernier, c'est le stress. Alors le stress, dans ces versets, le Seigneur Jésus qui il va nous dire dans le chapitre 6, au verset 34, donc, ne soyez pas en souci pour le lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Et dans les 10 versets qui précèdent, nous voyons à 3 fois, ne soyez pas en souci, et pour votre vie, et pour ce que vous mangerez. Oui. Alors, je voudrais dire tout de suite quelque chose. Là, je touche quelque chose qui touche à l'émotionnel. Je ne suis pas un spécialiste. Je ne connais rien du tout à cela. Et il y a effectivement des professionnels, des médecins qui pourront vous parler que le stress et l'anxiété, ce n'est pas la même chose. Mais qu'un stress maladif devient anxiété. Sans doute, je n'entre pas là-dedans. Mais le Seigneur Jésus, il n'entre pas là-dedans non plus. Mais il nous dit, ne soyez pas en souci. Alors nous avons chacun une sensibilité différente. Il y a des gens qui sont soucieux et il y en a qui le sont moins. Et ça, ça fait partie des limites du fait que nous sommes des créatures différentes. Et ça, il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont inquiètes facilement et d'autres moins facilement. Mais le problème ici, c'est que ne vous mettez pas en souci. N'ajoutez pas une inquiétude à ce qui est déjà le fardeau de la vie. Parce que la vie est déjà difficile. Au 21e siècle, elle est très difficile. Et avec les difficultés de la vie, eh bien, on a aussi des raisons d'être anxieux. Mais il y a un bon stress. Vous savez, moi, quand je suis venu ici, aujourd'hui, j'étais stressé ce matin, vraiment stressé. Parce que j'étais devant mes frères et sœurs, je voulais, de la part du Seigneur, vous donner quelque chose pour vous encourager, pour nous donner envie, puisque c'est Jésus qui nous parle. Mais j'étais stressé au fond de moi-même. Mais ce qui est mauvais, c'est quand on vit constamment dans le stress, mais dans, je vais le dire maintenant, dans l'anxiété. Et je vais vous dire pourquoi Jésus nous dit pourquoi ce n'est pas nécessaire, pourquoi il ne faut pas s'inquiéter. Alors, vous allez voir ici apparaître. La première chose qu'on a dans ce paragraphe, c'est que Dieu prend soin des oiseaux. Et alors, il dit, ne valez-vous pas beaucoup mieux? Ben oui, il s'occupe des moindres détails de notre vie. Est-ce que nous savons vraiment mettre tout à la disposition du Seigneur? L'inquiétude est parfaitement inutile puisque on lit ici que même avec tout ceci qu'on se donne, on ne peut pas ajouter une coudée à sa taille, ou ça veut dire aussi un seul instant, la durée de sa vie. Alors, donc, ça ne sert pas à grand-chose de s'inquiéter pour ça. Et puis, la troisième chose, ce n'est pas nécessaire parce qu'on a lu ici qu'il donne toutes choses par-dessus. Oui, mais il y a quand même beaucoup de millions de personnes dans le monde qui luttent pour la survie. Et c'est vrai que la vie est difficile. Mais le Seigneur veut justement nous aider lorsque nous avons l'impression que nous manquons, que nous allons être abandonnés. Peut-être qu'il veut nous aider lorsque nous cherchons à maîtriser notre passé, notre futur et notre présent. Nous nous épuisons à ça et nous disons, n'y arrivons pas. Alors, le Seigneur Jésus nous donne des conseils. Mais peut-être que ne vous inquiétez de rien. Alors, c'est dire, ça y est, c'est l'idéaliste qui est là en train de nous bassiner. Mais non, la parole de Dieu nous dit qu'il faut être aussi prévoyant. Il faut aussi prévoir, même s'il est dit, pense aussi pour demain. Mais il faut prévoir. Est-ce que vous avez une idée où Dieu nous dit qu'il faut prévoir, prévoir l'avenir ? Eh bien, il y a un exemple très intéressant, c'est dans les proverbes. La fourmi, ça vous dit quelque chose ? La fourmi, c'est un peuple sans force. Sage parmi les sages, prépare en été ses vivres. Voilà donc, prévoir, eh bien ça c'est quelque chose qui est nécessaire, mais sans inquiétude. Alors c'est là où c'est difficile pour nous. Parce que être dans l'inquiétude, c'est une véritable prison, parce qu'on n'est plus libre. Parce qu'on essaye de maîtriser toutes les choses et on n'y arrive pas. Alors je voudrais dire quelque chose. Pour le passé, comment gérer le passé? Eh bien, on ne peut pas le changer. On ne peut pas changer notre passé. Alors qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'on va souffrir parce que j'ai pas dit ceci, j'ai pas fait cela, j'aurais dû? Hein, on peut passer son présent en ce moment, en dire oui, c'est vrai, j'ai pas fait. Et puis finalement, pas vivre maintenant. Donc être dans une grande angoisse. Alors, il peut y avoir des choses à juger. Alors ça, il faut les confesser, il faut confier ça à notre Dieu. Dire, voilà, j'ai fait ça, mon passé, il est ce qu'il est. Et puis, j'ai des choses à confesser à Dieu et à un frère, par exemple. Eh bien, il faut le faire. L'avenir. Est-ce qu'on a une prise sur l'avenir, sur demain? Qui de nous va vivre demain? On ne sait pas. Alors pourquoi on se soucie aussi pour demain? Facile à dire comme ça, mais quand même, réfléchissons bien. Demain, je ne suis pas là. Le Seigneur vient, je ne l'attends pas demain, je l'attends aujourd'hui. Et en plus, je ne sais pas si je vais vivre demain. Donc, je n'ai pas de prise là-bas. Donc, je n'ai pas perdu de souci pour demain. Bien. Mais maintenant, le présent. Ah, c'est le seul moment, l'instant présent, où je suis que je peux maîtriser. Et c'est ça, le moment présent peut être vécu de deux manières. Sauf par un moment où, comme un tourbillon, je suis en train d'être occupé de ce que je vais faire demain ou ce que je n'ai pas fait hier. Et ce qui fait que je suis peut-être avec quelqu'un que j'aime maintenant, mais je suis en souci pour demain, pour telle ou telle raison. Parce qu'il va s'en aller, ou parce que demain sera peut-être moins bien qu'aujourd'hui, et en ce moment, je ne profite pas de lui. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire tout cela? C'est que le moment présent peut être vécu comme un instant où je vis la grâce de Dieu pour moi. Dieu me donne la vie en ce moment. En ce moment, j'ai des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, j'ai une mémoire, j'ai la santé en ce moment. Moi, en ce moment. Eh bien, je peux recevoir ça comme une bénédiction de Dieu et dire avec joie, oui, tu m'as promis ta présence. Je suis dans la présence de Dieu en ce moment, d'un Dieu vivant qui est là pour me parler, auquel je peux parler. C'est l'instant de communion. C'est l'instant où je peux décider d'aimer. Il y a quelqu'un qui a écrit, je l'ai noté ici, c'est que c'était une chrétienne, si je vous retrouve ce petite chose que j'ai marqué, mais pour t'aimer, ô Jésus, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Ben oui. On ne peut pas aimer hier, on ne peut pas aimer demain, mais je peux aimer aujourd'hui. Je peux aimer mon frère aujourd'hui. Je peux décider d'aimer mon frère aujourd'hui. Et quand l'apôtre Paul dit marcher par l'esprit, que marcher par l'esprit, alors ça ne veut pas dire demain, c'est-à-dire maintenant, tu peux le fruit, la joie, la paix, etc. Donc, je voudrais simplement qu'on se souvienne d'une chose, c'est que aujourd'hui, maintenant, je peux vivre une relation d'intimité, de joie, de bonheur, avec mon Seigneur. Et si je souffre aujourd'hui, eh bien, ce moment-là, je le confie à Dieu. Je vous donne, et je termine, simplement la phrase d'une chrétienne, une catholique, Thérèse de Lisieux, qui a été malade des années, et elle a dit, « Personne ne peut souffrir 10 ans ou 20 ans, mais je peux avoir la grâce de pouvoir porter aujourd'hui la souffrance qui est la mienne, on ne peut souffrir qu'un instant. » C'est pas moi, c'est une personne qui a souffert pendant plus de 20 ans. Voilà donc, simplement pour dire que ce que je vis maintenant, Je le vis dans la présence d'un Dieu vivant qui m'aime et qui me donne toutes ses promesses, qui me fait regarder devant. Jésus va revenir et c'est une espérance, c'est la foi qui est en activité et qui m'apaise concernant mon passé. Voyez, simplement pour vous dire, quelqu'un comme Joseph a pu supporter l'épreuve de sa vie, vous lisez ponctuellement, et Dieu était avec lui. Donc voilà, notre Seigneur qui nous a encouragés maintenant à vivre chaque instant, chaque moment, que nous puissions le vivre avec lui. Jésus est vivant et nous avons à rechercher sa présence, le royaume de Dieu d'abord. Et voilà, toutes les choses vous seront données par-dessus. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et nous accorde cette grâce de nous confier en lui.